Europe 1.
Écoutez le monde changer. Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Dans sa première vie, elle plaidait aux assises. Désormais, elle nous fait mourir de rire. Je reçois une tornade blonde, tête bien faite et bien pleine. Et ouais, belle et drôle, c'est possible, c'est Caroline Vigneault.
Europe 1.
Bonjour Caroline.
Bonjour.
Alors Caroline Vigneault, est-ce qu'il vous arrive d'imaginer parfois la tête de vos anciens clients aux assises quand ils vous découvrent par exemple sur l'écran de télé de leur cellule, en humoriste comme ça, en train de jouer un sketch?
Oui, je pense que quand ils me voient en train de faire des sketchs, les gars comprennent enfin pourquoi ils ont pris 13 ans de tôle. Ils doivent se dire, ah en fait j'étais défendue par un clown, mon dieu c'est horrible.
Il y en a qui vous écrivent ou pas?
Ça arrivait un petit peu, maintenant un peu moins. Mais j'en ai quelques-uns, oui, je le vois, puisque quand vous recevez une lettre de la prison, l'adresse derrière, c'est la santé. Donc c'est comme ça que je sais que c'est mes anciens clients qui m'écrivent.
Bon, est-ce qu'il est vrai que, avant que vous ne lâchiez complètement le barreau pour la scène, Éric Dupond-Moretti, vous avez dit à Caroline, tu peux pas faire les deux, faut choisir.
Ouais. C'était pour une émission avec Stéphane Bern, qui s'appelait La Reine de France à l'époque. Et on s'était croisés là-bas, et il m'avait dit ça. Il m'avait dit, non, mais tu ne peux pas être drôle et avocate, faut choisir. Et à chaque fois que je peux, je lui rappelle, je lui dis qu'Éric, je l'adore, hein, c'est un mec super, mais que lui, il n'a pas choisi, il fait les deux.
Mais il n'a pas choisi du tout. Donc, tant qu'il ne s'agit pas d'humour, il n'y a pas de confusion des genres, c'est ça,
ça serait ça, je ne sais pas. Bon, après, je pense que de toute façon, chacun fait ce qu'il veut, c'est ma devise en fait. Et donc, après, quand on est avocat, il y a des grands principes à respecter. Hein. Donc, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi en étant avocat, mais le fait de faire rire, ce n'est pas quelque chose de dégradant, donc il n'y a aucun problème.
Surtout quand on plaide aux assises, ce qui était votre cas.
Ouais.
Vous êtes allé le voir jouer, Dupond-Moretti ?
Bien sûr, j'adore.
Je dis jouer, d'ailleurs.
Oui. Bah oui, parce qu'on joue sur scène. Donc, bah oui, je l'ai vu. Et franchement, c'est une bête de scène.
De toute façon, pour être un bon avocat, il faut être une bête de scène.
Un bon avocat aux assises, oui. Parce que avocat, en fait, c'est un terme générique. Il y a des avocats qui ne portent jamais la robe et qui sont dans des bureaux, hein, qui font des financements, des trucs, qui sont en fait dans le conseil juridique. Mais nous, on était des vrais avocats du tribunal. Donc oui. Tribunal, cour d'assises, tout ça. Parce que j'ai passé un concours d'éloquence, en fait, qui s'appelle la conférence du barreau de Paris. Et c'est comme ça que j'ai accédé aux assises. Que moi, au départ, j'avais une formation en droit des affaires. Je faisais de la réassurance. C'est-à-dire, c'est l'assurance de l'assureur. Ouais. C'est ça, quand les gens me disent, mais vous regrettez pas votre métier, je fais, les gars, je faisais de la réassurance. Ah, ok, d'accord. Donc, vous regrettez pas. Non.
Bon, alors, Caroline Vigneault, pour faire le choix qui a été le vôtre, il y a 11 ans, quitter donc définitivement la robe d'avocat pour devenir humoriste. Il faut faire un pari sur le destin, n'est-ce pas? Il faut faire un pari sur la force de son talent, de sa patience, de son culot, et puis sur la détermination à tout affronter en attendant le succès. C'est quand même un pari costaud quand on a déjà réussi sa première vie, en tout cas réussi socialement. Parce qu'on devait vous dire autour de vous, mais tu lâches la proie pour l'ombre.
En fait, on ne m'a rien dit parce que je n'ai rien dit. Je ne l'ai pas annoncé, je l'ai fait toute seule. Parce que je me rendais bien compte que sur le papier, c'était complètement dingue. J'avais fait presque 7 ans d'études, j'étais avocate depuis 6 ans. Et de tout abandonner comme ça pour faire ce métier complètement hasardeux, je me rendais bien compte. Donc, je n'ai pas dit ni à mes parents, ni à mes amis. Et quand j'ai annoncé à mes parents, c'était déjà fait. J'avais démissionné, j'étais partie. Et donc, quand j'ai annoncé à mes parents que je n'étais plus avocat, ils m'ont dit « Ah bon, tu as changé de cabinet ?» Je suis dit « Non, je ne suis plus avocat. » Mais tu travailles en entreprise? Alors non, je fais humoriste. Pardon? Je fais humoriste. Et là, mes parents ont bien réagi. Enfin, ma mère surtout, parce que j'étais sur mon père pour le réanimer, je crois. Qui était en arrêt cardiaque, hein, c'est le cas de le dire.
Puis votre maman, elle, dans un premier temps, elle était rassurée en se disant, bon, de toute façon, elle a son diplôme, donc si ça marche, ça marche pas, elle pourra toujours s'en sortir.
Elle peut toujours redevenir avocate. Mais maman a eu du mal jusqu'au jour où j'ai fait l'Olympia. Ouais. Quand elle est venue voir à l'Olympia, jouant sur cette scène mythique, elle s'est dit, ah ben en fait, ça va bien se passer.
Ma fille est vraiment faite pour ça. Ouais. Alors, Caroline Vigneault, quand même, on peut se demander si, de toute façon, vous n'auriez pas un jour quitté la robe d'avocat, même sans votre formidable talent d'humoriste. Parce que vous étiez une bonne avocate, vous plaidiez aux assises, mais, de la même façon que plus tard dans cette conversation, on parlera de la troisième vie, est-ce que de toute façon, vous ne vous seriez pas contentée d'une vie au barreau ?
En fait, je ne sais pas quoi répondre à cette question parce que moi, je pensais que ça me suffisait, que j'étais bien jusqu'à ce que je perde mon grand-père. Quand il est mort, j'ai réalisé que moi-même, j'allais mourir, ce que je n'avais pas du tout pensé avant. Et c'est Confucius qui le dit très bien. Il dit, on a deux vies, la deuxième commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une. Et donc, j'ai fait un bilan rapide en me disant, ok, je suis avocate, est-ce que ça me suffit pour remplir cette seule et unique vie? Et d'un seul coup, c'était devenu, mais non, je ne peux pas mourir en me disant, j'ai juste été avocate dans cette vie. Et je me dis, qu'est-ce que j'ai envie de faire d'autre avant de mourir, en fait? Et là, je me dis, oh, y a un truc dont je rêve, c'est de faire rire les gens monter sur scène. Et je me dis, allez, lance-toi avant de mourir.
Et bien, parlons-en de l'humour, justement. Vous dites, il n'existe pas d'humour féminin comme il n'existe pas d'humour masculin. Donc, ça n'est pas sexué.
Non, j'en peux plus de ce terme d'humour féminin. Je comprends pas, en fait. L'humour, c'est soit c'est drôle, soit c'est pas drôle. Et c'est pour ça que vous avez le droit d'avoir un type d'humour qui vous plaît et un humoriste qui vous plaît. Et pour vous plaire ou pour faire de l'humour, il y a plein d'éléments. Le sexe en est un, mais vous avez votre religion, votre couleur de peau, vos amis, d'où vous venez, dans quel milieu social, vous êtes grandi à Nantes ou à Marseille. Tout ça fait que vous êtes différent et votre vision sur la vie et votre humour sera peut-être différent. Mais il n'y a pas d'humour féminin. Bon, moi, je ne sais pas parce que quelqu'un me fait rire parce que c'est une femme ou parce que c'est un homme. C'est parce qu'il ou elle est drôle.
Alors, il n'y a pas d'humour féminin, mais tout de même, l'humour, c'est un milieu dans lequel il y a toujours plus d'hommes que de femmes.
Mais
d'ailleurs,
comme dans le
milieu de la finance.
Ben ouais, mais comme dans le milieu du BTP, comme dans la plupart, mais les boîtes du CAC 40, regardez l'Assemblée nationale, même si moi, je suis optimiste et positive, ça avance, les femmes.
On a quand même Christine Lagarde au FMI.
Oui, mais c'est pour ça que je vous dis, il y a plein de points positifs et ça avance. Hein. N'oublions pas que ma grand-mère n'avait pas le droit de vote. Voilà, une fois qu'on a dit ça, on voit où on en est aujourd'hui. On vit dans un pays où il n'y a plus de loi misogyne.
Bon. Tout ça, en fait, c'est la faute de la fameuse mythologie d'Adam et Ève.
Ouais.
Alors, on en revient au titre de votre spectacle, Croque la pomme. Croque la pomme et le bazar arrive.
Bah ouais.
Bah oui.
Bah ouais, parce que, en fait, j'ai découvert, vous savez, j'ai fait une recherche très simple aussi. Pourquoi est-ce que la femme est soumise à l'homme sur la planète entière? D'où ça vient? Et en faisant ces recherches, j'ai découvert que ça venait de ce mythe d'Adam et Ève, qui est repris, ce que j'ignorais, dans les trois grandes religions qu'on retrouve donc chez les catholiques, chez les musulmans et chez les juifs. Et donc ce mythe, on l'a un peu oublié, mais quand Dieu nous chasse du paradis, en fait, il condamne Ève à enfanter dans la douleur. Et à être soumise à son mari. Et moi, j'avais oublié cette petite phrase. Et soumise à ton mari. Et Adam, lui, il est condamné à quoi? Alors qu'on a commis le même crime, hein, qui est de bouffer une putain de pomme. Et ben, Adam, il est condamné simplement à travailler. Voilà, donc lui, il décroche un job. Et... ouais, c'est complètement dingue. Et en fait, les religions qui vont donc gouverner les pays, que ce soit la France ou d'autres pays, vont s'appuyer sur ces religions, et notamment sur la religion catholique en France, pour dire, bah, puisque Dieu a dit qu'on devait être soumise à notre mari, et bah, la femme ne pourra pas hériter, ne pourra pas travailler, sera soumise à l'autorité de son mari, mais de façon légale. Et c'est pour ça qu'on n'avait aucun droit. Ça vient de là.
Bon. Et c'est quand même dingue. Je reçois cet après-midi Caroline Vigneault. C'est épatant, on fait une pause très courte. On la retrouve tout de suite.
Europe 1.
Jusqu'à 16h, vous écoutez Il n'y a pas qu'une vie dans la vie avec Isabelle Morizet et son invitée. Cet après-midi, une ancienne avocate reconvertie dans l'humour.
Je reçois Caroline Vigneault. Alors, chère Caroline, vous l'avez souvent entendue dans votre enfance, cette phrase « Arrête de faire ton intéressante ».
Ouais, ouais. Ça a été vraiment quelque chose qui m'a marquée. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, quand je le dis sans problème, que je suis féministe, parce que, pourquoi j'en ai souffert? Moi, j'ai souffert parce que j'étais une fille, qu'on te met une jolie robe et qu'on te dit « Ne salis pas ta robe, ne fais pas de bruit, etc. » Et je voyais les garçons qui, eux, on les pousse à grimper aux arbres, à courir en sport dans mon lycée privé catholique. Les filles, on était mis sur le côté à jouer au babbing et les mecs, ils faisaient des matchs de volley, etc. Et alors un jour, pour l'anecdote, j'étais tellement énervée, je suis allée voir le prof de sport et je lui dis j'en ai marre, ce qui était risqué parce qu'on n'avait pas le droit de râler. Et je lui dis j'en ai marre et je veux jouer au volley avec les garçons, il n'y a pas de raison. Et là, le prof me dit ah ok, très bien, bah viens, mais je te préviens, première balle que tu rates, tu retournes au badminton. Ce qui était déjà complètement dingue, parce que les mecs ont le droit de rater les balles, mais pas moi. Et comme je suis un peu teubée, je l'ai pris au mot, et première balle, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai plongé, j'ai plongé pour attraper la balle, sauf qu'on joue sur du bitume. Donc je me suis mais arraché la peau du corps entier, ce que le prof a dû m'emmener à l'infirmerie, où on m'a... Mais je saignais de partout.
Mais vous n'avez raté aucune balle.
Mais j'ai pas raté la balle, pour rester là. Et donc c'est là que vient cette rage de dire, je veux l'égalité, voilà, je veux qu'on me traite comme un mec.
J'entends bien, mais il y a peut-être autre chose aussi à côté, parce que pourquoi une petite fille aimée ce que vous avez été,
ouais,
fait-elle à ce point son intéressante? Les regards posés sur vous ne vous suffisaient pas? Votre quotidien peut-être manquait de fantaisie et d'enjeux?
Je crois que je suis née comme ça, en fait.
Une famille trop sage autour de vous?
Oui, mais j'ai une famille très sage, très bien. Moi, je viens de ce qu'on appelle la petite bourgeoisie catholique. Et ils ont tous une vie normale, selon des normes qu'on m'a apprises. Et moi, j'ai mis du temps à comprendre qu'on avait le droit aussi d'être différente. Et aujourd'hui, je l'ai compris, je l'assume. Ma vie est différente. Et c'est pas facile tous les jours, mais je sais ça. Vous savez, moi, mais ma première scène, c'est l'église. Tous les dimanches, j'allais à l'église avec mon grand-père et je lisais des textes. Et j'adorais ça. C'est pas pour ce que je disais, genre, je comprenais même pas ce que je disais. Mais c'est pour le moment où je me levais, on me donnait la parole, je marchais, je montais les marches, j'arrivais comme ça à ce pupitre, je baissais les micros, je regardais l'assemblée. Et
ah
là,
oui,
je
votre
me lançais.
Premier public, en fait, quand vous aviez 9-10 ans, c'était les fidèles.
6 ans, j'étais toute petite et je lisais. Et je disais, lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, avec une conviction, je savais pas ce que je disais. Et je lisais
surtout
le texte.
Que ça résonne dans une église, n'est-ce
pas? beaucoup de vannes, hein, papa. Ça fait pas très rire. Et je voyais l'arrivée, la fin du texte en me disant « Oh non, c'est pas vrai, c'est déjà fini. » Et hop, c'était fini. Et j'allais me rasseoir sur le banc. Et j'attendais le dimanche suivant pour pouvoir redire quelque chose. Je me battais tout le temps pour
parler. Donc l'église, en fait, ça a été votre révélation scénique.
Ouais.
Caroline Vigneault.
C'est ça.
Improbable, mais
complètement vrai. Parce qu'aujourd'hui, je pratique plus. Donc, voilà, c'est ça qui... Bah, c'est mes premières scènes après. Mais je faisais dans toutes les kermesses. C'est moi qui lisais la poésie. Je me battais avec les autres élèves pour le faire. Hein. Je lâchais jamais l'affaire. Je me suis même battue en CM2. Je n'oublierai jamais parce que, comme on était plusieurs à vouloir le faire, la prof a organisé un espèce de casting. Donc, j'avais répété avec ma mère et tout. Et j'avais eu le casting. Sauf qu'une semaine avant, je tombe de cheval. Je me pète la jambe. Donc, la maîtresse me dit « Tu peux pas y aller avec ton plâtre ?» Et j'ai dit « Si ». Et donc, j'ai les photos. J'arrive avec mes béquilles devant le truc avec le gros micro, j'enlève les béquilles et je fais ça sur un pied en sautillant. Il était hors de question que je le fasse pas. Donc j'avais ça en moi.
Elle avait ça en elle. Alors on l'a dit à l'église, première révélation. La deuxième révélation, elle est bien profane. Vous êtes en vacances chez votre grand-père quand vous visionnez une cassette VHS de l'un des plus grands classiques du théâtre de boulevard, Croque-Monsieur, mené tambour battant par une Jacqueline Maillot absolument délirante. Et là, vous comprenez que la fantaisie et l'irrévérence, eh ben ça peut être carrément un art, c'est ça ?
Mais surtout, quand on est éduqué comme une fille, à savoir, fais pas trop de bruit, sois gentil et tout, et par un grand-père assez strict, mais que j'aimais plus que tout. D'ailleurs, il était beaucoup plus light avec moi qu'avec ma propre maman. Et puis, il met une cassette vidéo dans son appareil dans les Vosges. Et là, je vois apparaître à l'écran cette femme, Jacqueline Maillan, qui fait les tsap, tsap, mais mon grand-père, tout le monde qui rit. Et là, je me dis, mais en fait, on a le droit d'être comme ça. Et je trouve ça dingue que cette femme fasse rire alors qu'elle fait tout ce qui est interdit. Et donc, c'est là où je me dis, mais c'est ça que je veux faire, en fait.
Mais alors, pourquoi avez-vous fait 5 années de droit à la Sorbonne ?
Mais parce que j'étais ensuite éduquée et que dans mon champ des possibles, c'est-à-dire qu'on ne m'a pas interdit. Mais même moi, l'éducation fait que vous ne vous rendez pas compte que vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Et que je m'étais moi-même auto-censurée. Et les métiers qui étaient possibles, c'était médecine, droit ou maths-sup. Et donc, je fais droit parce qu'avocat, parce que ça, voilà, il y a quand même la parole, etc.
Voilà.
Mais on m'aurait dit, tu veux être comédienne, j'aurais rigolé. Non, comédienne, je peux pas. C'était pas possible dans ma tête que je puisse devenir comédienne. Il a fallu que je m'accepte, que je comprenne qui j'étais. On n'arrêtait pas de me dire que j'étais pas une fille bien. Je me suis fait virer des rallyes. C'était quand même dingue parce que je faisais trop de bruit, parce que je dansais trop fort, trop machin. Et je me suis fait virer, j'étais plus invitée. C'était un drame à l'époque. Aujourd'hui, j'en rigole, mais à l'époque, c'était un drame.
Caroline Vigneault, ce fameux concours d'éloquence qui a fait l'objet d'un film d'ailleurs baptisé Le Brio avec Daniel Auteuil et Camélia Jordana, vous l'avez remporté, vous, jeune avocate. Et alors, j'ignorais que lorsqu'on le remporte, donc, on est secrétaire de la conférence au barreau de Paris et on est commis d'office aux assises pour ceux qui ne peuvent pas donc payer un avocat réputé. Vous avez plusieurs fois plaider aux assises.
Plusieurs fois, oui. Et c'était assez impressionnant parce que moi, je voulais absolument plaider aux assises. Et avec la formation de droit des affaires que j'avais, c'était le seul moyen. Donc, c'est pour ça que je me suis battue pour avoir ce concours. Et puis, c'est merveilleux, quoi. Mais c'est une pression de ouf quand vous défendez un homme qui risque 30 ans de prison. Vous avez les victimes à côté, vous vous levez et qu'on vous dit « la parole est à la défense ». Voilà, et je regrette vraiment pas ces moments, d'exaltation absolue.
Et la défense, elle regarde les jurés dans les yeux ?
Toujours.
Toujours.
Ah mais il faut croire à ce qu'on dit, hein. Sinon il faut pas le faire. Les gens qui me disent, ouais, comment tu fais pour défendre quelqu'un qui a tué, je sais pas pourquoi je prends cette voix, quelqu'un qui a tué, qui a massacré, je dis, mais c'est comme si disait un dentiste, ah, comment tu fais pour nettoyer une dent ou faire du détartrage ?
Mais je crois savoir qu'une fois dans votre carrière d'avocate, Caroline Vigneault, vous avez refusé un dossier, n'est-ce pas ? C'était celui d'un pédophile.
Avec acte de barbarie.
Donc vous avez dit, c'est impossible pour moi.
Non, mais je pouvais pas. En fait, je ne pouvais pas exercer mon métier. Cet homme-là, je ne pouvais pas le défendre. Donc j'ai dit, je ne vous défendrai pas parce que je n'y arriverai pas, en fait.
Caroline Vigneault, est-ce que ceux qui remportent le concours d'éloquence font forcément de bons avocats ?
Oh, ça aide quand même, parce que ce concours, pour l'avoir, il faut quand même savoir parler et avoir le sens, ce qu'on appelle d'ailleurs l'art oratoire, qui est un art, c'est-à-dire de savoir, vous savez, mettre des silences. Parler fort, s'énerver, opposer, choisir les mots. La langue française est une langue avec énormément de vocabulaire où on peut justement avec finesse choisir le mot qui correspond exactement à ce qu'on veut dire. Et donc ça c'est important et c'est magnifique.
Et l'art du silence pour ciseler les reliefs du discours.
Mais allez écouter un beau discours, allez à la conférence, vous savez que c'est ouvert, hein. Donc c'est gratuit, c'est ouvert, vous allez sur le site de la conférence du barreau de Paris, allez assister à des discours.
N'importe qui peut entrer.
N'importe qui, vous allez voir et vous allez passer un bon moment, c'est vraiment du spectacle.
C'est en compagnie de Caroline Vigneault qu'on se promène cet après-midi. On la retrouve dans quelques instants.
Europe 1.
Alors, on retrouve Isabelle Morizet pour la suite de sa conversation avec son invité. Cet après-midi, l'humoriste Caroline Vigneault. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Il est 15h23.
Caroline Vigneault, on ne sait jamais qu'on est mortel avant de voir la mort de près. La disparition de votre grand-père adoré, vous nous l'avez confié en quelques mots tout à l'heure, fut un choc et pourtant vous étiez adulte. C'est donc vraiment en se demandant s'il avait des regrets par rapport au choix qu'il avait fait dans sa vie que vous êtes promis, vous, de ne jamais en avoir, c'est ça ?
C'est surtout, vous savez, quand vous assistez à la mort de quelqu'un, parce qu'il était mourant, donc être à ses côtés, et on se dit, qu'est-ce qu'on doit se dire à ce moment-là ? Quand on sait qu'on va mourir, il ne se battait pas contre une maladie, on attendait la mort avec lui, tous les deux, en se tenant par la main, c'est à peu près tout ce qu'on pouvait faire, ce qui ne parlait plus à ce moment-là. Et je me suis juste dit, qu'est-ce qu'on doit se dire ? Et moi, dans cette situation, si Dieu veut que je reste en vie jusque-là, qu'est-ce qu'on doit se dire au moment où on attend la mort ? Et en fait, je me suis dit, je pense que la pire chose sur son lit de mort, ce serait de se dire, j'ai eu une seule vie. J'avais envie de faire, j'en sais pas moi, jouer du violon, faire de l'accordéon, aller monter l'Everest, et je l'ai pas fait. Et maintenant, c'est trop tard. Donc je me dis, je veux pas que ça m'arrive. Donc ok, avant de mourir, quel est le truc que j'ai vraiment envie de faire de cette vie ? Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui m'obsédait depuis longtemps, que j'aimais, et ben, c'était de faire rire les gens sur scène. Et c'était complètement dingue parce que ça n'avait rien à voir avec ce que je faisais actuellement ou un métier que j'aimais. C'est ça, souvent les gens parlent de changement de vie quand ils n'aiment pas ce qu'ils font. Ce n'est pas mon cas. Moi, j'ai un métier que j'aimais, je gagnais très bien ma vie. C'était socialement reconnu et puis agréable. Et puis j'avais un patron génial, je passais dans un super cabinet.
Mais vous étiez capable déjà de ruer dans les brancards pour ce métier que vous aimiez. Parce que j'ai appris par exemple que quelques années plus tôt, vous aviez envoyé bouler le patron de votre cabinet d'avocat qui avait fait preuve d'une injustice que vous n'aviez absolument pas digérée. Feuille de paye justement, c'est ça. Vous l'avez envoyé promener et vous êtes faite embaucher par un concurrent claquement de doigts.
Donc j'étais horrifiée de
prendre des décisions assez radicales. Ça, vous savez faire.
Mais en fait, je crois que c'est une force de caractère, mais qu'on développe avec le temps et que j'ai développé très vite parce que notamment, vous savez, mon premier stage en cabinet. Mon patron qui m'avait demandé, m'avait expliqué qu'on allait dîner ensemble le soir même et je lui avais dit non. Et il m'avait dit, si je crois que t'as pas compris, tu fais un stage chez moi. Donc on va aller dîner. Et c'est là où je comprends enfin que c'est pas le dîner qui comptait, mais c'est ce qui passait avant. Et là, c'est-à-dire comment s'en sortir à une situation comme ça. Et donc je l'ai regardé avec un grand sourire. Je fais, ah bah d'accord, très bien, si j'ai pas le choix, ok. Mais du coup, qui prévient votre femme ? C'est vous ou c'est moi ? Et là, du coup, le dîner n'a pas eu lieu. Bon, je me suis fait virer, mais c'est pas grave. Ce que je dis souvent aux filles, allez-y, voilà. Et bah, moi, l'injustice, quand on m'a expliqué que je pouvais pas être augmentée, je suis partie, j'ai démissionné. Et j'ai été embauchée par le cabinet d'en face.
Alors, elle est très bien, Caroline Vigneault, la phrase de Confucius, on a deux vies. Et la deuxième commence le jour, on comprend qu'on n'en a qu'une. Mais quand même, il faut une sacrée force pour aller vers l'inconnu. Est-ce que vous l'avez prise seule, la décision ?
Alors, seule, c'est sûr, parce que vous savez, moi-même, si une copine était venue voir pour me dire, voilà, je suis avocate, j'ai fait des études, je réussis bien, tout va bien, je vais tout planter pour faire humoriste alors que tu connais personne, qu'il n'y a même pas un plan, il n'y a rien, je leur aurais dit, ne le fais pas. Donc, je me rendais bien compte que si je demandais conseil à des gens, personne ne m'aurait dit, vas-y, fonce. Donc, pour éviter qu'on me déconseille de le faire, j'ai dit, je le fais. Et voilà. Et quand je l'ai annoncé, c'était déjà fait. Donc, on ne pouvait plus me dire, ne le fais pas.
Mais vous, vous saviez drôle. On vous disait drôle. Est-ce que l'humour, parfois, s'invite dans les salles d'audience ?
Moi, ça m'est arrivé.
Ça vous est arrivé de faire des traits d'humour ?
Des traits d'humour, parfois. Je me souviens d'une fois où j'avais un confrère. À l'époque, je représentais dans un procès une grosse compagnie d'assurance. Et il me voit arriver, il me fait « Ah, c'est vous qui représentez cette compagnie ?» Il fait « Oh, mais c'est mignon. Mais ma petite, il faut commencer un jour, c'est bien. Allez-y, foncez. » Et quand il commence sa plaidoirie, il fait « Ce procès n'a qu'un seul intérêt, celui d'avoir rencontré ma charmante petite consoeur. » Et ça me rend dingue d'entendre ça. Donc quand je me lève, je dis « Bah moi, vous savez, ce procès pour moi n'a aucun intérêt. Pas même celui d'avoir rencontré mon charmant vieux confrère. » Et le mec pète un câble en disant que c'est un scandale et tout ça, etc. Et donc voilà, des fois on fait un peu d'humour, mais c'est limité. Parce que c'est pas facile.
Caroline Vigneault, un jury, c'est d'abord un public.
Ou alors, franchement... Oui, mais le but face à un jury, c'est d'arriver à les convaincre. Donc, c'est la conviction qu'on cherche. Alors qu'aujourd'hui, ce que je recherche, c'est le rire. Donc, ce n'est pas exactement la même chose. Dans l'écriture, on a un but et on cherche quelque chose, mais ce n'est pas la même chose. Et c'est plus facile de se planter sur une vanne et dormir ensuite en disant « Ah, il y a une vanne que j'ai ratée »
Bien sûr que
de rater une plaidoirie.
On est d'accord, surtout quand on plaide aux assises.
Ouais.
On fait une pause, on retrouve Caroline Vigneault.
Et oui, celle qui a quitté sa robe d'avocat en 2008 pour se lancer dans la comédie et l'humour se raconte au micro d'Isabelle Morizet jusqu'à 16h. Et c'est Caroline Vigneault. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Enfant, on lui disait « Arrête de faire ton intéressante ». Elle n'a jamais cessé, tant mieux pour nous. Alors, chère Caroline, le tout premier, parce qu'on déroule le fil, hein, je suis curieuse, le tout premier minuscule café-théâtre que vous avez rempli à Paris s'appelait Le Lieu.
Ouais.
Il n'y avait pas de ticket payant. Non. Les spectateurs payaient au chapeau, un peu comme lorsqu'on fait la manche dans la rue. Et le premier soir, bon, 90 copains dans la salle, le chapeau rempli de billets de 50 euros, vos copains vous aiment. Et le deuxième soir, là, il n'y a rien que des vrais spectateurs dans la salle et le chapeau...
Des centimes. C'est pas une blague, hein, c'est vrai. Et alors déjà, la première fois, donc 90 personnes dans une salle de 45, donc c'était blindé, on avait mis des gens sur le bord de scène. Et le lendemain, il y avait 10 personnes dans la salle. Et moi, je passais le chapeau comme ça, donc je leur donnais, et je dis, vous faites passer. Et quand je vois qu'il n'y a que des centimes, je me souviens de la Coco qui gère Le Lieu, qui est une super fille. Hein. Le Lieu, c'est rue de Trévise à Paris. Et je la vois, je fais « Oh, ils ont détesté, c'était nul, et j'ai que des centimes. » Parce que moi, je me disais, pour mettre des centimes, il faut vraiment dire aux gens, c'était nul. Et elle me dit « Ah non, non, pas du tout. » En fait, c'est comme, à la caisse à l'église, si vous n'êtes pas obligé de payer, vous ne payez pas. Donc, il faut les regarder dans les yeux et il faut les obliger. Donc après, j'ai écrit un petit sketch, je disais « Maintenant, on ferme les portes, je me mets devant le truc et avec le chapeau et je les regardais dans les yeux, je fais « Pour qu'ils payent, pour que ça me rembourse au moins le prix de la location de la salle. »
C'est bien à vos débuts, Caroline Vigneault, dans ce spectacle donc, que vous avez croisé alors que vous étiez déguisé en fée, et que vous alliez monter sur scène, un avocat général qui vous lance avec ironie. C'est donc vrai, Maître Vigneault.
C'était au lieu toujours. Et le lieu, c'est une toute petite salle, il n'y a pas d'entrée d'artiste. Donc il y avait un spectacle avant moi, donc je me mets devant la porte, et là, votre public, il commence à arriver. Voyez, et je vois effectivement arriver cet avocat général contre qui j'avais plaidé quelques semaines avant, dans un gros dossier d'assises. Et on se regarde comme ça.
Vous êtes vêtue en fée?
Non, à ce moment-là, pas encore.
Pas encore.
Il ne m'a pas vue encore en fée. Et c'est moi, je me dis, mon Dieu. Et donc il me dit ça, il dit alors, ah, donc c'est donc vrai, vous faites du spectacle. On va voir ça dans quelques minutes. Et moi, je rentre sur scène, je croise les spectateurs qui sortent et je vais me changer en fée. Et comme tous les débutants au début, on en a trop d'accessoires. Donc j'avais une perruque blonde, alors que je suis blonde, quand même pas besoin, mais une petite baguette magique qui clique. Une robe de fée, et je me dis, mon Dieu, je vais monter sur scène. Et je monte sur scène, il est au premier rang, donc dans une salle de 40,
il avait
sur
fait
scène.
Exprès.
Il me regarde comme ça, et là, j'étais comme ça avec ma baguette à faire ding, 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 ding. Et là, je me disais, voilà, il y a non-retour. Je peux pas retourner plaider devant ce mec qui va me dire, alors, Maître Vigneault, aujourd'hui, on n'a pas pris sa petite baguette magique. C'est mort. De toute façon, maintenant, allez, on y va.
Cette fille est extraordinaire. Bon, en fait, Caroline Vigneault, vous avez appris la scène. Sur scène,
ah oui.
Ça se passe toujours ainsi pour un humoriste?
Ah non, non, non. Moi, je crois que je fais rien comme personne. Hein. D'abord, j'ai pas de co-auteur, j'écris toute seule, ce qui est assez rare. Et puis, je vous dis, j'ai appris. Alors, au début, j'arrivais avec mon espèce d'éloquence, un peu d'avocature. Et donc, j'annonçais des vannes. Il y avait un paragraphe entier, ce qui fait que je faisais un spectacle d'une heure dans lequel il y avait 5 vannes. Et puis, rapidement, je suis rendu compte que c'était pas le bon rythme. Donc, j'ai réécrit pour m'adapter. Puis, j'ai appris sur le tas, comme on dit.
Mais vous vous étiez inscrite au cours Florent? Après avoir quitté votre robe d'avocate, et le cours Florent, ça forme des comédiens, des humoristes.
C'était catastrophique.
il n'existe aucune école, aucun atelier qui enseigne ce timing si singulier de l'humour. Ça n'existe pas.
Je crois qu'aujourd'hui ça existe. Moi, j'avoue, je ne connaissais pas. Et comme je changeais de vie, je me dis, un truc un peu scolaire, il faut que je m'inscrive dans un truc de théâtre. Donc je suis allée au cours Florent. Et le premier jour, quand on se présente, il dit, qu'est-ce que vous voulez faire? Et je dis, voilà, moi je veux faire des sketchs, etc. Et là, c'est là qu'on m'a dit, ah non, non, attendez, ici c'est le théâtre. Et d'ailleurs, pour reparler de Jacqueline Maillan, j'ai découvert qu'elle, c'est encore autre chose. Elle voulait faire les cours d'avenue Rue Blanche. Et à chaque fois qu'elle montait sur scène pour faire Phèdre, elle faisait rire. Ouais. Et donc, elle a accepté son destin. Et elle est partie faire du café-théâtre, alors qu'à l'époque, c'était vraiment considéré comme la sous-lit de la... rien du tout. Et elle est devenue la Maillan, portant les lettres de noblesse de cette star que j'adore, qui fait de faire rire les gens.
Mais alors, revenons à vous, Caroline Vigneault. Arrivée à 33 ans sur les bancs du cours Florent, c'est pas habituel.
Ah non, j'avais le même âge que la prof.
Vécu comment? Ah oui, on vous prenait pour une prof.
Non, mais c'est vrai que j'avais le même âge que la prof. Et donc, à chaque fois qu'elle disait, bon, alors on va jouer ça, qui veut jouer la jeune fille? Je faisais, moi. Elle fait, non, Caroline, toi, tu vas jouer la belle-mère. Donc, je faisais que les rôles de vieille.
Bon, votre premier spectacle, vous l'avez écrit en 15 jours, toute seule.
Ouais.
Et pendant 3 ans, avec vos économies, vous vous êtes autoproduite. Mais il faut bien préciser, parce que quand 3 fois par semaine, on loue une toute petite salle, 350 euros la représentation, on peut quand même très vite se ruiner.
J'ai perdu beaucoup d'argent au début, mais vous savez, c'est pas dramatique. Je connais pas un entrepreneur qui perd pas d'argent au début. C'est ce qu'on appelle de l'investissement.
Ouais.
Faut pas en avoir peur. Après, il faut le cadrer et puis il faut savoir ce qu'on fait. Donc j'avais d'ailleurs une véritable approche entrepreneuriale du truc. Donc je savais que j'allais perdre de l'argent et c'était logique. Après, il faut
vous en avez perdu pendant combien de temps?
Franchement, avant que j'arrive à zéro, c'est un an.
Un an.
Pendant un an, je perdais de l'argent. Après, on arrive à zéro, c'est-à-dire que vos rentrées, elles sont égales aux sorties, donc vous gagnez toujours pas d'argent, mais déjà, vous avez arrêté l'hémorragie. Ce qui est déjà un soulagement. Mais bon, c'est de l'investissement. Quand un mec lance une boîte, ou une nana d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis un mec, bah, c'est pareil, hein, vous achetez des produits, vous louez des locaux, vous commencez par perdre de l'argent.
Et à cette époque-là, quand on appelait votre boîte de prod, Caroline Vigneault, eh bien, vous vous faisiez passer au téléphone pour l'attaché de presse.
C'est vrai.
N'est-ce pas ?
Mais oui, j'avais eu mon numéro de
personnel.
Ouais, j'avais eu mon numéro de chez moi, donc en 01. Et donc les gens appelaient et, en disant la boîte s'appelait Des larmes au rire. Et il disait, voilà, on a vu Caroline Vigneault, on voudrait acheter son spectacle et tout. Et pour pas qu'on reconnaisse ma voix, je prenais un accent, comme ça, par exemple. Sauf que des fois, je changeais d'accent. Et après, je prenais un accent, oui, bonjour, comme ça. Et j'avais, par contre, je changeais pas de nom, parce que j'avais pas compris. Et donc, des fois, ils disaient, mais c'est pas vous que j'ai eu l'autre fois. Je fais, non, c'est une grosse boîte, on est nombreux.
Et puis, un soir, dans un dîner avec des copains, bon, Caroline, arrête. On t'a reconnu.
Alors, c'est pas un dîner entre copains, c'est un jour des gens qui m'avaient acheté mon spectacle. On
dîne. Ah oui.
Et donc, c'est les pros, ils m'ont dit, bon, on voulait dire, on est très contents de t'avoir ici, d'avoir acheté ton spectacle, c'était super. Faut juste que tu saches, c'est que...
Faut
on
arrêter.
A compris, ouais, faut arrêter.
Bon, pour résumer, au Café Théâtre, on commence par des scènes rémunérées au chapeau, puis le public paie sa place en s'asseyant sur des bancs, et enfin, le public a droit à des fauteuils ah ouais. profonds. Il vous accueille quand et comment le succès, Caroline Vigneault ?
Alors moi, je fais partie de ces gens qui n'ont pas de date. Moi, c'est vraiment, je les marche par marche. C'est-à-dire que je commence au lieu dans une salle donc, de 45 places. Et quand elle est pleine, j'arrive au Blanc Manteau. Quand c'est plein, je passe au Petit Palais des Glaces. Et puis après, la Comédie de Paris et le Grand Palais des Glaces et l'Olympia.
Et
c'est parce qu'on remplissait. Et c'est le bouche à oreille. Donc c'est long. Ça fait plus de 10 ans maintenant. C'est long, mais c'est solide. C'est ça qui est chouette. C'est que les gens ont vraiment... Mais c'est le public qui a décidé.
Alors la première immense fierté, c'est l'Olympia. Et ouais. la deuxième, c'est la nomination cette année ouais. au Molière de l'humour pour ouais. Croque la pomme que vous reprenez au Grand Point Virgule à Paris jusqu'au 2 novembre.
J'ai pleuré.
C'est ça
ouais, j'ai pleuré.
Vous avez pleuré.
Ah, franchement, parce que vous savez, quand vous faites ce changement de vie toute seule et tout ça, et que... Vous dites, bon, allez, j'y crois. Le public vient, c'est déjà une première chose. Mais j'avais aucun contact avec ce milieu professionnel. Et là, pour la première fois de ma vie, ce milieu me disait, au bout de 10 ans, bah, bienvenue dans la famille. Voilà, on considère que maintenant, ça y est, tu fais partie des comédiens. Et donc ça, ça m'a vraiment touchée. Et d'être, voilà, d'être dans la cour des grands, en fait. C'était rien. Ça, il y a des grands moments qui marquent dans une vie. Donc, bah, faire mon spectacle sur la scène de l'Olympia, c'en était un. Et être dans cette salle et d'être nommée, c'en était un autre.
Europe 1.
C'est la très talentueuse Caroline Vigneault qui nous accompagne cet après-midi. On fait une pause, on la retrouve tout de suite.
Europe 1.
Elle a profité du confinement pour ralentir la cadence, méditation, écriture, repos. C'était sa première pause en 10 ans de carrière à Caroline Vigneault, l'invitée d'Isabelle Morizet. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Caroline Vigneault, au début de l'été, l'ancienne avocate que vous êtes a signé un article bouleversant sur le site du magazine Le Point. Vous évoquiez Ispahan, en Iran, imaginant prendre un verre sur une terrasse au soleil avec une femme admirable. Nasrin Sotoudeh, une avocate iranienne qui se bat avec fougue pour défendre depuis des années les droits des femmes de son pays. Sauf que, bah vous imaginez, mais vous n'aurez jamais l'occasion de prendre un verre avec Nasrin Sotoudeh, car elle a été arrêtée et condamnée à 148 coups de fouet et 38 ans de prison pour avoir osé montrer ses cheveux, c'est-à-dire avoir refusé de porter le voile. 148 coups de fouet, attachés sans chemise, sur une place noire de monde et 38 ans de prison. La barbarie à l'ère moderne. Elle est encore en vie, Nasrin Sotoudeh ?
Je le souhaite, je l'espère, parce que bon, on est quand même nombreux à en parler. Il y a une pétition, d'ailleurs j'en profite de votre antenne pour le dire, il y a des pétitions qui circulent, notamment sur Amnesty International. Donc allez la signer, prenez deux secondes si vous voulez lui sauver la vie. Et donc je pense que l'Iran va avoir un peu de mal, j'espère, à mettre à exécution cette condamnation, sachant que tous les jours, là-bas, des femmes sont fouettées, hein, c'est un drame, mais 148 coups de fouet, c'est vraiment une sanction énorme. Et d'ailleurs, je pense mortelle. Hein. Je ne pense pas qu'on puisse survivre à 148 coups de fouet. Et en fait, elle a été arrêtée dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, puisqu'elle défendait, vous savez, tous les mercredis, il y a des femmes qui se battent pour avoir le droit de plus porter le voile et au risque de leur vie. Elles l'enlèvent, elles se font prendre en photo et elles le postent. Et donc, beaucoup sont arrêtées et elle les défendait en tant qu'avocate. Et quand elle a été traînée pour avoir fait cet acte dingue de défendre d'autres femmes, elle a refusé de porter le voile. Et c'est la raison pour laquelle, notamment, incitation à la prostitution, ce qui est logique. Hein. Excusez-moi, je suis un peu émue. À chaque fois que j'en parle, je suis émue. Et donc voilà, j'en parle tous les soirs dans, à la fin de mon spectacle pour expliquer ce à quoi sert encore le féminisme aujourd'hui, pour essayer voilà, d'essayer de sauver cette femme qui est condamnée parce que c'est une femme.
L'ONU et la diplomatie internationale ne peuvent en fait rien face à cette dictature islamiste.
Bah, rien, j'espère qu'ils font des choses, j'espère qu'on, comme vous savez, souvent on n'est pas au courant de tout.
Mais elle est dans une geôle.
Bah, elle a été arrêtée et elle est en attente de... Elle a refusé de faire appel, hein. Ça c'est aussi quelque chose que je trouve assez fort, moi je crois que j'aurais fait appel tout de suite. Elle a dit qu'elle refusait de faire appel parce qu'elle savait que de toute façon la sentence serait maintenue. Et donc voilà, c'est un drame absolu, on a l'impression d'être au Moyen-Âge, de condamner une femme à être fouettée. Mais rien qu'en le disant, j'ai des frissons. Voilà. La seule chose que nous, on peut faire, c'est signer cette pétition et montrer à l'Iran que, voilà, que s'ils mettent à exécution cette condamnation, le monde entier le saura.
Caroline Vigneault, le Conseil de l'Ordre des avocats à la Cour d'appel de Paris a élu à l'unanimité Nasrin Sotoudeh, membre d'honneur du barreau de Paris, ouais. Ce qui la place sous la protection théorique du barreau de Paris. Mmh. Bon, mais ensuite...
Voilà, on fait tout ce qu'on peut faire, hein, Mais moi, j'en appelle à M. Macron, si jamais il écoute cette émission, et à toutes les personnes qui ont un pouvoir, ou quel qu'il soit, si on peut aider cette femme. Et là, une chose qu'on peut faire, c'est signer la pétition. Je sais que je l'ai déjà dit, mais je le redis, parce que ça prend 2 minutes de votre vie, et ça peut lui sauver la vie à elle.
En Iran, en fait, le 100e des mots que vous prononcez sur scène chaque soir, face à des éclats de rire, vous voudrez une exécution immédiate.
J'aimerais bien, ouais. Voilà, j'aimerais bien que... Je sais pas ce qu'on peut faire de plus. Des fois, vous savez, on se sent un peu, pieds et poings liés. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut se battre. Notamment, on peut parler des Maldives. Ça aussi, vous pouvez agir, ne pas aller aux Maldives, boycotter les Maldives où des femmes sont fouettées là-bas. Il y a une jeune fille de 15 ans qui a été fouettée en place publique aux Maldives. Pourquoi ? Parce qu'elle a été violée. Non, je plaisante pas, hein, c'est pas une blague. Et comme elle a eu des rapports sexuels en dehors des liens sacrés du mariage, à 15 ans, elle a été fouettée. Voilà. Et nous, on ne le sait pas. Donc, les gens vont aux Maldives sans savoir ce qui s'y passe. C'est aujourd'hui l'application de la charia la plus violente au monde, c'est aux Maldives. Et on a le pouvoir d'agir, c'est-à-dire d'arrêter d'aller là-bas. Et si les gens arrêtent d'y aller, comme ce pays ne vit que grâce au fonds du tourisme, peut-être qu'ils seront obligés de modifier les lois. Donc oui, on peut agir dans notre quotidien, comme pour l'écologie, comme pour d'autres. En plus, des fois, on me reproche, on me dit « oui, mais vous combattez que pour les femmes ». Je dis « non, attendez, je me dis pas que c'est le seul et unique combat. La seule chose que je dis, c'est choisissez tous un combat, quel qu'il soit, les animaux, les enfants, la vie, l'écologie, le réchauffement, des combats justes et on va pas dans l'horreur voir quel est le plus important ».
Pour revenir à Nasrin Sotoudeh, j'ai appris, Caroline Vigneault, qu'en 1935, le port du voile avait été aboli en Iran.
Eh oui.
Il avait été aboli en 1935, donc le voile est revenu avec l'ayatollah Khomeini 44 ans plus tard, c'est ça ? À une époque où la comparaison que je vais faire peut paraître curieuse, mais c'est pour dire à l'ère moderne, comme en fait peuvent cohabiter les mondes barbares et d'autres. À une époque où par exemple, en 1979, retour de l'ayatollah Khomeini, eh bien en Occident, IBM lance le premier PC. Mmh. Donc on est à l'époque des ordinateurs et en même temps, on est à l'époque où on voit les femmes.
Mmh. Mais, vous savez, on oublie des trucs, mais par exemple en France, les droits de vote aux femmes, donc 1944, exercés seulement un an plus tard, 45, alors que les femmes avaient le droit de vote en Turquie depuis 10 ans. Hein. Mmh. Souvent les gens l'ignorent, mais les femmes turques ont eu le droit de vote avant les femmes françaises, 10 ans avant. Et aujourd'hui, regardez où on en est.
Elles sont voilées.
Et voilà.
On fait une pause. On retrouve tout de suite Caroline Vigneault.
Europe 1. Depuis 15h sur Europe 1, vous écoutez Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. C'est maintenant la dernière séquence. On retrouve Isabelle Morizet et son invitée, l'ex-avocate reconvertie dans l'humour, Caroline Vigneault.
Caroline, vous avez des enfants de quel âge ?
6 ans et 10 ans.
6 ans et 10 ans. Ils ont déjà vu leur maman sur scène ?
Oui.
Oui.
Ouais, alors c'est marrant parce que c'est un spectacle quand même qui est non seulement donc, très féministe, donc je parle des droits des femmes, mais je parle aussi des tabous féminins. J'explique comment trouver le point G, etc. Donc il y a des gens qui disent « mais comment vous avez pu vos enfants voir ça ?» Et ça me fait assez rire parce que je dis toujours qu'eux, ils ne s'en rendent pas compte et ils trouvent ça inintéressant de me voir sur scène.
Moi, je vais vous poser une autre question. Parce que par exemple, celui qui a 10 ans, donc pré-ado, comment faites-vous, Caroline Vigneault, pour garder un semblant d'autorité face à ce pré-ado qui a vu délirer sa mère sur scène ?
Bon, parce que pour lui, c'est un métier. D'ailleurs, le petit, quand on allait là, il est rentré au CP, on lui demandait « qu'est-ce que fait ta maman comme métier ?» Et la maîtresse m'a dit « il a dit « elle fait rigolote ». Donc voilà, pour eux, c'est un métier. Ils ont bien compris que c'était mon métier et qu'ils acceptaient, qu'ils acceptaient ça.
Et les conseils de parents d'élèves, c'est un public facile à affronter, les parents d'élèves ?
Oh non, moi j'ai du mal, je suis assez timide dans la vie.
C'est vrai ?
Oui, parce que... C'est toujours être. Enfin, voilà, je sais jamais comment agir avec eux. Parce que les gens, une fois qu'ils vous reconnaissent, ils agissent différemment. Enfin, vous devez savoir ce que c'est. Et du coup, ça plombe un peu les rapports tout de suite. Ça n'est pas... J'ai encore du mal à me positionner avec ça, c'est bizarre.
Bon, Caroline Vigneault, beaucoup de gens rêvent de changer de vie, assez peu osent le faire. Vous avez carrément sauté d'une planète à une autre, quittant le barreau de Paris pour les scènes de café-théâtre où vous excellez. Il en est où le manuscrit que vous a demandé Flammarion ? Je sais tout, manuscrit qui est en fait une réflexion sur tout ce qu'il faut envisager pour sauter le pas.
Oui, c'est un manuel. En fait, je me suis dit, je vais écrire le bouquin qui m'a manqué. Quand j'ai décidé de changer de vie, moi, je suis allée chercher des livres pour me conseiller, pour me dire ce qu'il fallait faire, pas faire, et puis avoir des... Il n'y a que des trucs sur l'air du temps, genre ouvrez votre fenêtre, aérez-vous, regardez le soleil, c'est pas ça moi que je voulais.
Réaligner vos chakras.
Voilà, aligner vos chakras, exactement. Je ne sais toujours pas comment on fait pour faire ça. Donc je me suis dit non, je vais au bout de 10 ans, maintenant j'ai le recul nécessaire pour savoir par quelle phase on passe. Et je me suis dit que j'allais écrire ce bouquin, parce que c'est Flammarion qui est venu me chercher pour me demander d'écrire pour eux, parce qu'ils aimaient bien ma plume. Et je leur ai dit, ah, j'aimerais bien faire ça. Ils m'ont dit, super idée. Donc j'écris ce bouquin qui devrait.
Qui sortira bientôt ?
Fin de l'année, on espère, si j'arrive à le terminer à temps.
Bon, parce que tout le monde, quel que soit son domaine, son âge et ses compétences, tout le monde, selon vous, est capable de réaiguiller son chemin ?
Oui, alors après, ce que je dis, c'est pas obligé de faire un changement de vie aussi drastique et fou que le mien. Un changement de vie, ça peut pas être, c'est pas que professionnel, ça peut être ce que j'en disais tout à l'heure, mais vous savez, avant de mourir, vous dites, ça fait 10 ans que je dis que je vais faire du violon, j'ai toujours pas fait. Bah, arrêtez de procrastiner, dites-vous stop, maintenant j'arrête, je décroche mon téléphone, et oui, je trouve le temps de le faire, parce qu'avant d'être sur mon fameux lit de mort, j'aurais fait du violon. Après, ça peut être aussi un changement juste d'entreprise. Vous vous rendez compte que vous n'êtes pas heureux dans cette entreprise, prenez le temps de refaire votre CV et de changer. Ça peut être aussi un changement d'orientation, ça peut être un changement aussi dingue que le mien. Mais il faut arrêter de se mettre soi-même des barrières parce qu'on est les premiers à s'auto-censurer. Arrêtons ça. Prenez le temps de faire ce que je dis toujours, prenez le temps de faire un bilan. 2 secondes, 2 minutes dans sa vie. Vous savez, le meilleur endroit pour faire ça, c'est les toilettes. Et vous vous enfermez aux toilettes, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de mari, il n'y a pas de bruit. Hop, clac, clac, il y a une serrure, ça ferme. Et vous prenez 2 minutes et vous dites, voilà, j'ai tel âge, je suis à tel moment de ma vie, je fais tel boulot, machin, est-ce que ça me convient ? Si ça vous convient, ne changez rien et refaites un bilan dans 6 mois, dans 1 an, pour voir si ça va toujours bien. Mais ça dure 2 minutes, un bilan. Et s'il y a un truc qui ne vous plaît pas, c'est qu'est-ce qui ne me plaît pas ? Pourquoi je ne suis pas aussi heureuse que je devrais l'être ? Et est-ce que je peux le changer ? Et oui, la réponse est oui, on peut le changer. Et trouver ce qui ne va pas. Des fois, c'est juste, ma vie, elle coule entre mes doigts. Ça fait 5 ans que je n'ai pas fait un truc qui me fait plaisir. Parce que le temps passe et on se dit, je ferai ça plus tard. Ok, les enfants, la bouffe, la crèche, l'organisation de trucs, les factures à payer. Et on ne prend pas le temps. Et parfois, même juste une matinée, un truc qu'on appelle ses amis, sa mère, son père, même son conjoint, son ex-conjoint, dit samedi matin, tu prends les gosses, je vais prendre une matinée pour moi. Des fois, ça suffit à remettre, à s'aligner avec ses fameux chakras. Mais il faut prendre le temps.
Bon, Caroline Vigneault, 2020 va être une année chargée. Parce que si tout va bien, et tout va aller très bien, vous allez réaliser votre premier long métrage derrière la caméra.
Ouais, alors réalisé en 2020, c'est ce qui est prévu. On est encore à l'écriture du scénario, donc on verra bien. J'espère.
Sous le signe de l'humour.
Ah oui, bien moi sûr. Je sais écrire que des choses drôles. Même mon manuel, bon. Vous savez, il va être marrant. Hein, donc je ne sais pas écrire autrement en fait.
Donc 2020, vous allez être réalisatrice.
J'espère réaliser le film à partir de septembre, si tout va bien. Mais bon, je touche du bois, hein, parce que vous savez, c'est compliqué aujourd'hui de faire des films.
Alors, juste avant de nous quitter, hélas, ça passe trop vite avec vous, Caroline Vigneault. On peut bien changer de vie une deuxième fois quand on a déjà réussi à changer de vie une première fois. Vous avez confié il y a peu, je sais que je ne serai pas humoriste toute ma vie. Donc je vous pose la question, ce sera quoi la troisième vie de Caroline Vigneault ?
Il y a un truc qui m'attire là récemment et j'ai vraiment envie de faire, c'est de mettre les gens en scène. Parce que moi je me suis mis en scène toute seule sur mon spectacle, j'ai trouvé ça chouette. Et donc il y a aujourd'hui cette envie, je crois, de faire de la mise en scène pour d'autres personnes. Ouais, c'est quelque chose qui m'attire pas mal. Et pourquoi humoriste, je ne vais pas rester toute ma vie ? C'est parce qu'à un moment donné, je suis sûre qu'on arrête de faire rire les gens. Qu'il y a une nouvelle génération qui arrive et qui est formidable. Et au lieu d'en faire un drame...
En tout cas, on n'arrête pas de les faire rire, mais on va dire qu'une nouvelle génération propose une autre façon de les faire rire, c'est ça ?
Ouais, et puis même, parce que voilà...
Ça se démode, l'humour.
Bien sûr. Oui. Ouais. Après, il y a des champions qui arrivent à faire de l'humour indémodable. Et pour moi, ça restera toujours Albert Dupontel. Hein, si vous regardez ses sketchs aujourd'hui, je trouve qu'ils n'ont pas tout pris une ride. Mais ils sont quand même très rares, les génies dans son genre.
C'était un bonheur de... partir comme ça, en balade avec vous cet après-midi. Je vous embrasse, je vous dis à très vite.
Merci, moi aussi, merci beaucoup.
C'était Il n'y a pas qu'une vie dans la vie avec Isabelle Morizet qui revient demain dès 15h sur Europe 1 en compagnie du créateur français Philippe Starck. Dans un instant, le rendez-vous qui donne envie de voyager. Et si on partait avec Philippe Gougler ? Europe 1.